Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. On parle de jazz, de musette, musique des Balkans, tzigane, flamenco, musique klezmer et musique du Moyen-Orient qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, qu'on va entendre, mais en fait du Maghreb, et musique du monde. Des variations musicales teintées d'influences locales telles qu'on peut les entendre à Montréal, au Québec et ailleurs dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée sur les ondes de CIBL 101,5. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Instagram et maintenant une chaîne YouTube qui se nomme tous et toutes, en fait, Montréal est Jazz Manouche. E-S-T et non pas Montréal est, mais bien Montréal est Jazz Manouche. Aujourd'hui, on reçoit un duo de musique maghrébine. Ça, on est content parce que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Qui s'appelle En Gamme. C'est composé de Shafik El Kourouj, qui joue du oud. Bonjour, Shafik.
Bonjour, Marc.
Et de Jean-Sébastien Auger, qui est percussionniste, en fait. Bonjour, Jean-Sébastien.
Salut, Marc.
Bon, ils vont nous faire de la musique arabe-tarad, de la musique, évidemment, de la musique maghrébine, des classiques composés par des artistes tels que Kelchoum, Férouz et Farid El Atrak. Mais ce qu'on va faire, on va commencer par les écouter par une première pièce et puis ensuite, on va s'entretenir avec eux pour tout savoir sur la musique qu'ils font. Alors, messieurs, je vous laisse le plancher avec une première pièce qui s'appelle...
Binti Chalabir.
Alors, on écoute ça.
C'est un morceau de Férouz,
ben voilà.
Libanaise.
Bon, ben parfait, on écoute. Une chanteuse libanaise, c'est ce que vous venez de nous interpréter?
Exactement.
Bon. Alors là, vous allez nous parler de sa musique. En fait, on entend effectivement un peu le désert. On entend vraiment... parce que la musique est très influencée par l'environnement, n'est-ce pas?
Oui, c'est plus les gammes qui reflètent les origines des chansons. Et ça nous donne l'aspect d'une musique arabe. C'est joué, c'est des noms des maqams qui reflètent en fait les zones, parce que les maqams, ils sont extraits de certaines cultures. Donc chaque culture avait, on va dire, c'est comme on dit pour le jazz manouche. Toi, tu joues le jazz manouche, c'est comme une musique des gitans. Donc
les
gammes, ils ont été inventés selon la vie des gitans, selon leur improvisation, selon leur histoire, ce qu'ils ont écouté. C'est à peu près la même chose pour les pays arabes. Donc, on trouve des gammes qui sont liées à des zones, à des villes, avec d'autres noms aussi, avec d'autres diversités.
Dépendant de l'influence.
Exact.
Mais de façon générale, parce que je ne voulais pas aller là tout de suite, mais vu qu'on y est, de façon générale, est-ce qu'on a des microtons, là, ça change un petit peu. Hein? Ce n'est pas comme la musique occidentale, on est au quart de ton, ou demi-ton, c'est-à-dire, mais là, on va dans le quart de ton, dans le huitième, on est dans les microtons, là.
Exact. Pour ce morceau, il n'y a pas, on va dire, le huitième de ton, mais c'est le cas, on va dire le bémol. Le bémol, on le trouve sur la guitare, mais généralement pour la musique arabe, turque, aussi grecque, maghrébine, on trouve beaucoup de gammes où il y a le huitième, effectivement, de ton, ou bien ce qu'on appelle le demi-bémol.
Ouais.
Donc, c'est ce qui reflète le changement ou bien la différence, effectivement, entre la musique orientale et occidentale.
Et ça donne toute une acoustique, hein? Ça donne toute une ambiance, c'est-à-dire. En guitare, on va faire ce qu'on appelle un bend pour tenter de s'en approcher. Mais ce n'est pas la même chose, là. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais disons qu'on essaie de tricher.
Il faut remarquer aussi que dans la musique arabe moderne, ils ont totalement effacé les quarts de ton. Ils ont plus ça,
ben oui.
pour s'uniformiser puis s'harmoniser avec toute la musique, parce qu'après ça, plus personne ne peut jouer avec toi quand tu joues des quarts de ton. Mais même les bassistes qui ont des frettes m'ont dit que quand il y a un quart de ton qui jouait, eux, ils jouent rien.
Ah ouais?
Ouais. C'est pas tous les bassistes arabes qui vont jouer de la musique, la bass fretless. Alors, quand ils vont jouer un instrument qui a des frettes, et là, le morceau, c'est un morceau classique qu'on va jouer de la vraie façon.
De façon, ouais.
À ce moment-là, ils vont oublier le quart de ton.
Puis l'ambiance, là, parce que ça donne... Bon, en musique, là, c'est toujours tension-relâche, hein, c'est toujours le même principe. Donc, lorsqu'on va... J'aimerais ça qu'on essaie d'illustrer, puis je sais que c'est pas facile, je vais vous demander un exercice un peu périlleux, puis je vais y participer moi-même, le cas échéant, mais on prend un demi-ton ou on fait un quart de ton, on crée une légère tension. Comment on décrit ça? Parce que ça donne toute une ambiance. Quand ils additionnent un derrière l'autre, là, ça crée vraiment une ambiance particulière.
J'ai pas bien compris l'idée, sincèrement.
Non, c'est pas très grave. Je disais, le quart de ton, la différence si on joue pour créer des ambiances avec un quart de ton ou un demi-ton. Pour vous, vous la voyez comment? Est-ce que vous la voyez ou pas du tout? C'est peut-être juste dans mon imagination, en fait.
Bah, peut-être aussi on n'a pas fait l'exercice parce que c'est entre le oud et la percussion.
Oui, oui.
Donc, j'ai pas pu exercer, en fait, cette situation.
OK, mais en général, pas aujourd'hui, là.
J'ai pas vraiment de grande idée sur
bon, mais c'est pas plus grave. C'est pas...
Je peux te dire qu'en tant que moi occidental, je peux le remarquer quand il y a un quart de ton qui est joué, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et
voilà.
Je trouve ça très intéressant. Moi, je le remarque parce que j'ai pas entendu cette musique-là quand j'étais plus jeune.
Voilà. OK. Bon, ben c'est là où je voulais aller, en fait. Et vous le remarquez comment? Vous le dites, je le remarque, je le ressens.
Moi, j'ai pas l'oreille musicale comme toi, Marc, ou comme Shafik. C'est plus au niveau émotif. Je sens qu'il y a quelque
mais
chose
ça fait quoi?
Qui
mais ça fait
place.
Quoi, justement? Pas, sans être technique, là, ça fait quoi? Ça ressent quoi?
Il y a comme un décalage un peu.
OK.
Avec ce que je connais avec mes racines. Je sens que tout n'est pas à sa place, puis j'aime ça. Tu sais, un peu comme tu connais Thelonious Monk.
Oui, oui.
Le concept des clusters, de la dissonance, puis tout ça. Moi, je trouve ça fantastique. Quand on a écouté beaucoup de musique ici, là, on va OK, on connaît ça, on connaît nos gammes. On veut être brassé puis être inspiré.
Ouais.
Moi, c'est ce qui peut un peu m'amener à ça. Alors, dans le quart de ton, là, je le vois totalement. Je ne suis plus à la maison.
Oui, oui, mais c'est ça. Puis, mais aussi, je veux dire, dans la musique dite occidentale, là, c'était la musique sérielle. Des fois, tu avais des choses, là, la musique cacophonique, tu avais des choses qui étaient complètement... un peu dissonante. Mais le quart de ton, c'est pas nécessairement dissonant, mais ça s'en approche. Quoique, mon ancien prof de chant classique à l'université, il y a 40 ans, à un moment donné, j'ai fait une recherche sur lui et il a terminé sa carrière en faisant des trucs sur deux pianos accordés à un quart de ton de différence.
Oh, wow.
Là, on peut imaginer la tension tout le temps.
L'expérimental.
Entre les deux choses. Ceci étant, écoutez, on parle. On va reparler des instruments tout à l'heure, mais là, il serait peut-être temps qu'on écoute une seconde pièce. Qu'est-ce qu'on écouterait? Qu'est-ce que vous pourriez nous jouer?
Hawa Sultan.
OK. C'est quoi? C'est qui? De qui?
C'est un morceau de Georges Wassouf.
Okay.
C'est un chanteur aussi libanais.
OK.
Donc, on fait une interprétation instrumentale de ce jour de sa chanson. C'est ça.
Wassouf.
Georges Wassouf, exactement.
Bon, on écoute Georges Wassouf. Ben, on vous écoute interpréter Georges Wassouf. Thank you. Alors, on vous a presque pas présenté, mais là, je pense qu'on va le faire pour vous présenter vos instruments. Alors, Shafik, vous êtes maghrébin, vous êtes en fait marocain.
Exact.
Et vous nous jouez là de la musique du Liban. C'est pas très loin de chez vous, mais quand même. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours. Parce que vous jouez... On va parler de votre instrument après, mais j'aimerais bien comprendre avant comment vous en êtes venu à la musique, puis pourquoi nous jouer cette musique aujourd'hui.
En fait, j'ai commencé la musique, on va dire, ça fait 20 ans.
Okay.
Et c'est précisément, on va dire, à peu près à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à jouer le oud.
Okay.
C'est ça, donc j'ai commencé à apprendre un peu le solfège. J'ai fait comme 2 années de solfège pour comprendre les notes. Et après, il y avait la révolution Internet. Donc, on pouvait trouver les cours sur Internet, en ligne. Et c'est là où j'ai pu quand même continuer le parcours pour apprendre. Et d'aller étape par étape, en essayant d'apprendre les techniques de l'instrument, aussi comment pouvoir développer la performance. Pour le répertoire aussi, vu qu'on grandit au Maroc, on écoute de styles beaucoup, on va dire, différents. Comme on écoute de la musique orientale, maghrébine, de la musique occidentale aussi. C'est vrai qu'on a commencé avec deux morceaux libanais. Mais le répertoire, il contient comme une diversité entre des morceaux libanais, des pièces turques aussi, des pièces égyptiennes, marocaines. Et j'ai choisi ceux qui ont été un peu, on va dire, pas oubliés, mais qui n'ont pas été assez exploités. C'est-à-dire qu'il y a des styles musicaux qui sont passés, mais on n'a pas pris le temps aussi de les écouter, de les arranger. Oui. Donc, c'est ça, j'ai essayé de choisir une musique de chaque, on va dire, pays, de l'Orient, du Maghreb.
On est chanceux, vous avez fait une sélection juste pour nous.
C'est ça.
Non, mais c'est bien parce que ça nous expose à une autre musique. C'est ça le but du jeu aussi, là, vraiment. Puis, on va revenir à vous. Vous allez nous parler de votre instrument là, plus en détail. On va passer à Jean-Sébastien pour l'instant. Jean-Sébastien, québécois, puis vous jouez du... ça s'appelle un rick.
Ouais. Il y a le rick, il y a le darbuka, il y a tout ce qui est tambour sur cadre ou frame drum en anglais. Et là, j'imagine, tu vas maintenant...
On n'a pas besoin de le dire en anglais, en français.
Sur cadre.
On avait bien compris.
j'imagine, tu vas demander comment ça se fait que moi, je joue de ça.
Voilà, c'était ça la question.
Ben moi, ça a commencé quand j'avais 10 ans. C'est ma sœur, Mélanie Auger, qui m'a appris la batterie. Okay. J'ai commencé la batterie à 10 ans. Puis comme tout bon batteur qui veut aller sur les percussions, il s'en va au Mont-Royal, jouer du djembé. J'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis ma sœur, elle étudiait en percussion latine à Saint-Laurent. Puis un dimanche matin, elle dit comme « Apporte pas mon djembé, apporte mon darbuka, là, puis apporte le petit en métal. » Puis le petit en métal, c'était un darbuka. Moi, je savais même pas comment ça s'appelait. Puis là-bas, il y a un maghrébin, Mohamed, qui me dit « Ça se joue pas avec les mains, ça se joue avec les doigts. » Je suis comme « Oh ouais? » J'avais 18 ans à l'époque. Bien, j'ai fait mes recherches sur YouTube, commençait à sortir, début des années 2000. J'ai fait mes recherches. Je cassais les oreilles de mes parents en jouant dans le sous-sol chez nous. J'accompagnais des
musiques. On a tous fait ça en passant.
Puis j'ai continué mon chemin comme ça jusqu'à temps que je trouve un professeur qui s'appelle Joseph Roury à Montréal, qui a travaillé avec Guy Saint-Onge sur Mille et une nuits.
Okay.
Puis c'est ça, il venait d'arriver. Ça fait pas longtemps qu'il était au Québec. Il m'a enseigné pendant 2 ans, cours privés, lire les partitions, connaître les rythmes, le rôle du darbuka, tout ça. J'ai eu plusieurs d'autres professeurs, Fira Sadat, j'ai pris des cours de groupe. J'ai eu des groupes avec d'autres Québécois aussi. Puis pour moi, ce qui est important, c'était vraiment de comprendre la culture derrière l'instrument. Comme l'exemple que je donne à Shafik, je me dis, si un Marocain qui veut apprendre à jouer du rock à guitare électrique, il va jouer des Beatles puis du Led Zeppelin. C'est pour ça que je suis assis ici en ce moment. C'était mon parcours. Je voulais connaître la culture, les acteurs majeurs qu'il y avait...
À travers la musique.
Ouais. L'instrument m'a fait découvrir la culture. Je trouvais ça important. Je voulais pas jouer la musique d'ici sur un
la musique que tout le monde joue. Là,
ouais,
non, c'est ça. Mais l'instrument, mais le choix de l'instrument de part, votre sœur vous dit apportez-le, mais encore, je veux dire, c'est le coup de foudre, c'est quoi?
Ouais, ben je trouvais que c'était portatif, c'était efficace, puis ça jouait fort, puis j'étais curieux, c'était différent. Je trouvais ça le fun parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au Mont-Royal. Tout le monde jouait sur du djembé. Puis je me suis dit, moi, j'ai quelque chose de particulier.
De différent.
Puis là, j'ai mis la musique après ça, puis toute la fusion qu'on peut faire orientale et occidentale qui est si riche et qui est exploitable en ce moment. Ça, c'est merveilleux, ça.
Ah oui. Ben, c'est l'esprit de... D'ailleurs, je vais revenir à Shafik parce que, parlant d'esprit, Shafik, on le croise... Nous, on fait des jams manouches, et Shafik, on le croise de temps à autre. Il vient jammer avec son hood avec nous.
Ah oui.
Vous trouvez ça comment, les jams? Parce que c'est là, on est ailleurs.
Ça fait partie de maintenant. Actuellement, j'essaie de travailler fort sur les répertoires manouches.
Ah oui.
Donc, ça m'intéresse. La musique manouche, je l'ai découvert. Je l'ai découvert pas ça fait longtemps, c'était comme juste dernièrement. Donc, je suis tombé amoureux de cette musique, certaines pièces. Donc, je suis actuellement en train de travailler sur un répertoire aussi manouche.
OK, ben vous allez nous en faire bientôt. Est-ce que vous n'avez pas une aujourd'hui, hein?
Ben non, il faut que tu ramènes ta guitare, là, et je serai prêt.
Ah, j'aurais dû, mais j'ai pas pensé, non.
Il me faut des accords, parce que le oud, tu sais, c'est un instrument pour faire des solos.
Puis c'est tellement beau, c'est tellement magnifique.
C'est ça, donc j'essaie. Ça sera à long terme, mais je te promets qu'il y aura des bonnes interprétations, on va dire, malheureusement.
Mais de toute façon, je sais qu'on va se recroiser dans les jams, puis on va s'entendre. J'aimerais ça qu'on parle rapidement, puis on va revenir à Jean-Sébastien après aussi. Le oud, cet instrument, parce que les gens le connaissent peut-être moins, Donc, on parle de... Moi, je vois là, devant moi 5 cordes doublées, hein, puis une sixième qui est toute seule, hein, pour faire le bourdon. Comment c'est structuré? Le son, c'est magnifique, là, mais comment c'est structuré, cet instrument?
En fait, pour les oudes, pour la dernière qui est seule, il y en a qui mettent aussi deux. Donc, on peut avoir 12 cordes. Les deux cordes qui sont... les deux cordes, ils sont accordées sur la même note.
C'est à l'octave. Non, c'est vraiment doublé?
C'est doublé, c'est
la même note. À l'unisson?
Oui.
Okay.
C'est la même corde, mais c'est en double.
C'est pas comme une guitare 12 cordes où là, tu es à l'octave. Là, vous êtes vraiment à l'unisson. C'est un Do 5, c'est un Do 5 partout.
Exact. Ben, les deux, je parle des deux cordes, bien sûr. Donc, et la manière d'accorder, il y en a différentes. Dans la guitare aussi, je pense, pour certaines pièces classiques, on peut accorder les dernières différemment.
Oui, oui, oui.
Comme pour le morceau Caprichoara, par exemple, en classique, je pense. Mais pour le oud aussi, il y a d'autres beaucoup de types d'accordage. Ça dépend des cordes utilisées, ça dépend de la culture. Comme les Turcs, ils ont des manières pour accorder leur oud. Il y a aussi les Irakiens, ils ont une autre manière. Et c'est partagé par d'autres cultures. C'est-à-dire pas juste les Irakiens qui accordent le oud d'une manière précise, mais il y en a d'autres cultures qui font la même chose, c'est-à-dire la même manière d'accordage. Ça dépend aussi de ce que tu préfères, aussi, parce que le son, il change. Par exemple, il y en a des ouds, des cordes qu'on peut les placer de fa à fa.
C'est comme
on va dire de la guitare de Miami. Pour le oud, il y en a de fa à fa. Celui actuel, j'ai de do à do. C'est-à-dire la dernière, là, les deux dernières, c'est do. Celle-là, c'est sol, ré, la. Et celle-là, c'est sol avec do.
OK.
Mais on peut faire des modifications.
Tu es toujours accordé en quinte, en fait.
En quinte, ça veut dire...
Quinte, c'est comme 1-5. Si tu joues, par exemple, en do, c'est sol. T'es toujours 5. En fait, c'est trois tons et demi en haut de la fondamentale. C'est un petit peu complexe, là.
OK.
Mais c'est pas grave. C'est en quinte, en fait. C'est ça que ça se dit. Ah, mais puis ça sonne merveilleusement bien. Ah, on va aller rapidement à Jean-Sébastien. Mm-hmm. Vous jouez d'une tambourine qui est particulière. En fait, vous appelez ça un RIC.
Ouais.
RIK. RIQ, pardon.
Le K. C'est ça. Donc, oui, c'est une tambourine. Ce qui différencie des tambourines que nous, on connaît, c'est qu'il y a deux rangées de cymbales au lieu d'en avoir une sur une tambourine. Ça va être plus profond aussi. Et c'est la façon que c'est joué. Donc, ça peut être joué fermé, comme je jouais plus tôt.
Oui.
Qu'on ne va pas voir sur une tambourine traditionnelle. Puis l'autre façon de la jouer, ça va être ouverte comme ça.
Ah, ouais. Ah oui, puis ça a un son un peu plus sourd, un peu plus qu'une tambourine.
Il y en a qui ont commencé à faire ça. Là, il y a des fabricants qui font leurs cymbales à la main. Ça, c'est des cymbales martelées à la main. Puis le son est différent sur chaque cymbale.
C'est ça, tu vas chercher des tonalités.
Alors, dépendamment de la chanson, des fois, je vais changer d'une cymbale à l'autre. Il y a toutes sortes de combinaisons qui existent. Ces cymbales-là, ils viennent de Turquie. On a des fabricants au Vermont aussi, comme Cooperman, mais... en gros, c'est vraiment la façon qu'elle est jouée. Puis c'est traditionnellement un instrument classique. Donc, je dirais, il est rentré dans la musique classique, je dirais, fin 19e siècle, début 20e siècle. Le darbuka, c'était considéré comme un instrument...
C'était l'autre. Le darbuka, c'est l'autre, là.
Ouais, darbuka.
Ouais.
Ouais. Donc, darbuka que j'ai ici, qui est en terre cuite, avec une peau de chèvre, ça l'a en 3000 ans environ. Pas celui-là, là, mais l'instrument... Puis le darbuka qu'on voit derrière avec en pierre de noc, ça c'est fond d'aluminium.
On le voit pas, là, c'est parce qu'on était à la radio. Ben,
toi et moi, on le voit, Marc.
Moi, je sais, mais c'est pas à nous qu'on parle. On parle aux auditeurs, donc il faut juste préciser. Oui. Il y en a un troisième là, dans le coin qui est fait en quoi d'ailleurs?
C'est la fonte d'aluminium, puis c'est recouvert en pierre de noc. Donc ça, c'est apparu à peu près 100 ans.
Oui, OK. Mais c'est ça, des variations sur un même thème. On va reparler des instruments tout à l'heure. Là, on va écouter une avant-dernière pièce pour cet épisode. Vous allez nous faire quoi, Shafik?
Nasamata Dba. On va jouer Nasamata Dba. En français, c'est Douce Brise. Exact. C'est une pièce irakienne instrumentale.
Okay.
D'un oudiste, d'une virtuose, on va dire. C'est Nasir Shama.
OK, parfait. On écoute ça. Douce brise. J'oserais même pas essayer de le prononcer en arabe, mais ça s'appelle douce brise.
Un taksim au début?
Oui, taksim, allons-y.
Donc, ça commence avec une improvisation et après, ça y est,
on vous écoute. Thank you. Alors, tandis que les messieurs vont continuer à jouer, on va faire... c'est déjà malheureusement tout le temps qu'on avait pour cet épisode. Alors, ils vont continuer à jouer, puis nous, on va vous dire que nous recevions cette semaine Chafik El-Kourouj et Jean-Sébastien Auger du duo En Gamme. À la régie, nous avions Maurice Bolduc et Daniel Labrosse. Réalisation, animation et thème d'ouverture, Marc Levasseur. Je vous dis merci d'avoir été là et on poursuit en fait la discussion la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!
Merci beaucoup, messieurs.
Merci à toi, Marc.